L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Comme tous les sujets qui sont à la mode, il y a un phénomène que l'on appelle le washing. Et évidemment, le féminisme n'échappe pas à la règle. Et justement, mon invité du jour, Léa Lejeune, a écrit un livre qui s'appelle Féminisme Washing, pour essayer de comprendre comment les marques, comment les institutions, comment parfois des personnes utilisent ce principe, ces valeurs, entre guillemets, pour faire du business. Et donc, on va parler avec Léa de tout ce sujet pendant cet épisode que je vous laisse écouter. Allez, Vlan, c'est parti.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Léa.
Bonjour Grégory.
Est-ce que ça va bien?
Oui, ça va mieux depuis que les restaurants et les bars ont réouvert notamment.
Effectivement, ça fait plutôt pas mal de bien. Donc, vous avez écrit un bouquin qui s'appelle Féminisme Washing. Et dans l'introduction, il y a une chose qui me questionne, parce que vous parlez du fait que le féminisme est devenu à la mode. Est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'est justement la conséquence nécessaire à ce que le féminisme s'installe?
Je pense qu'effectivement, c'est nécessaire qu'on passe à un moment d'idées qui sont au début minoritaires, qui ont été portées par l'extrême gauche, par des militantes, beaucoup en France par des lesbiennes, par des autrices, parfois confidentielles. Et donc, c'est nécessaire qu'en fait, à un moment, ça dépasse la sphère universitaire et militante et ça devienne quelque chose de grand public pour parler à une génération en entier, pour que chacun puisse se l'approprier avec ses valeurs, son interprétation. Qui parfois peut être critiqué par les militantes parce que c'est jugé insuffisant ou pas assez puriste. Mais en tout cas, oui, il faut que ça devienne un peu à la mode, ça devienne un peu mainstream. Et dès le début, je cite au début du livre, une étude Harris Interactive qui dit que maintenant 58% des Français se disent féministes et que ça monte même jusqu'à 77% chez les très jeunes femmes de moins de 25 ans. Et bah oui, c'est un passage obligé.
Parce que vous faites effectivement référence à Frida Kahlo, aux débardeurs qui sont à slogan, etc., etc., au Futurist Female de Dior. Donc tout ça, en fait, ça montre simplement que ça s'installe comme une sorte de nouvelle normalité. Et encore que, on pourrait le discuter parce qu'on a vu pendant le confinement qu'il y a eu une sorte de retrait, que ce soit en ce qui concerne la violence faite aux femmes, mais aussi dans des tâches, on a vu ça pendant le confinement, des tâches qui étaient mal redistribuées, c'est-à-dire qu'on revoyait le schéma assez ancien la femme qui s'occupe du foyer et puis du mec qui travaille, quoi. Je dis pas que c'est évidemment le cas dans tous les foyers, etc., mais on l'a revu quand même. Donc, quelque part, ça s'installe, parce que voilà ce qu'on vient de décrire. Et puis, de l'autre côté, ça vacille un peu, quoi.
Oui, non, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a une contradiction entre les représentations et les stéréotypes. Là, il y a une évolution qui est nette hein, sur ce qu'on a envie de voir, les images de femmes auxquelles on a envie de s'identifier. Vous citiez tout à l'heure Frida Kahlo, les messages féministes ou d'empowerment. Que qu'on porte sur nos t-shirts et qu'on a envie de partager, et à la fois ben la réticence, le recul, les mauvaises habitudes, le fait qu'effectivement pendant le confinement, bah du coup on s'est retourné plus vers le foyer et les femmes ont repris beaucoup plus les tâches dont elles avaient réussi à s'émanciper, donc faire la cuisine, s'occuper des enfants, etc. Et c'est aussi la faute de ces messieurs hein, qui ne se sont pas assez mobilisés pour les aider. Et je pense qu'il faut pas nier ça. Donc oui, de toute façon, le combat féministe, il n'est pas terminé tant qu'en fait, ce sera pas la norme, tant qu'en fait, les genres nous obligeront plus à nous assigner à un rôle plutôt qu'à un autre et nous laisseront plus... pas encore la liberté d'être qui on veut, tout ça n'est pas terminé.
Et en même temps, vous faites vous-même référence au paradoxe de Tocqueville. Peut-être vous pouvez l'expliquer dans ce contexte-là et me dire ce que vous en pensez dans le contexte du féminisme.
Alors oui, le paradoxe de Tocqueville, je le cite tout à la fin du livre pour expliquer qu'on peut avoir l'impression par moment en tant que militante ou en tant que jeune femme qu'on n'est jamais assez près du féminisme, qu'on n'arrive jamais à l'égalité que l'on souhaite et que l'on chérirait. En gros, l'idée, le paradoxe de Tocqueville, l'idée c'est plus je me rapproche d'une idée ou d'un idéal, donc lui il avait l'utilisé sur la démocratie en Amérique, mais plus je me rapproche de cette idée ou cet idéal, plus ça me paraît intolérable l'écart qu'il y a entre cet idéal et ma réalité. Plus ça me paraît intolérable que l'égalité salariale soit pas là, que l'égalité dans les tâches ménagères soit toujours pas atteinte, que les violences faites aux femmes continuent et qu'on continue à avoir des féminicides chaque année. Plus on se rapproche de ça, plus ça nous paraît intolérable. Et notamment, moi je le cite donc tout à la fin, dans les entreprises qui se disent féministes et qui font des efforts pour coller aux idéaux d'égalité, mais qui par contre ne respectent pas l'égalité en réalité avec leurs salariés. Mais ça, on va y revenir peut-être plus tard.
Forcément, forcément, parce qu'en fait, donc du coup, le bouquin s'appelle Féminisme Washing. Je voulais savoir, alors peut-être d'abord expliquer ce que c'est que le féminisme washing, même si je pense que les gens maintenant ont une bonne idée, parce qu'on a tellement parlé de greenwashing que quand on parle de féminisme washing, je pense que ça parle tout seul. Néanmoins, j'aimerais comprendre qu'est-ce que vous entendez par là et pourquoi vous avez écrit le bouquin.
Alors. Tout à fait. Donc le concept est dérivé du greenwashing. Donc vraiment, donc le greenwashing, c'était l'écart entre nos idéaux écologiques et ce que faisaient réellement les entreprises. Donc le féminisme washing, c'est un concept qui est peu utilisé et que, en tout cas, moi, je lui donne du corps et une définition. Donc c'est la réappropriation par le marketing, la publicité, la communication, par les entreprises, des idées et des concepts féministes donc qui appartiennent au départ au militantisme ou à la politique. Et cette réappropriation qui ne va pas, en général, avec une manière de bien traiter les femmes en interne dans les entreprises. C'est-à-dire... dans les ressources humaines, dans la manière de produire, et de réaliser les produits. On y reviendra plus tard peut-être, mais c'est par exemple les t-shirts qui sont fabriqués au Bangladesh par des femmes sous-payées qui sont dans de mauvaises conditions de travail et derrière sur lesquels on met genre le pouvoir aux femmes. C'est quelque chose qui en fait est pour moi absurde et qui relève du féminisme washing. L'écart entre la communication, le marketing et la réalité des femmes dans les entreprises et la société.
Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous citez plein d'exemples en citant les marques. Donc,
oui.
Du coup, on peut y aller. Donc, il y a Dior, entre autres, il y a H&M,